dans l'évangile de Marc au chapitre 14. On va commencer par ce texte, Marc chapitre 14. On va lire ensemble à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a, d'avance, embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Amen. Gloire à Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 8, notre deuxième lecture, au chapitre 8 et au verset 1, nous lisons cet enseignement profond, merveilleux, que Paul distille ici, Romains, chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Gloire à Dieu. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. J'aimerais ce matin développer un peu plus cet enseignement. J'aimerais vous parler de l'affection de l'esprit et prendre en illustration l'exemple d'un événement qui s'est produit lors de cette réunion à Béthanie chez Simon le lépreux, où une femme a eu un comportement très fort, absolument imprévisible, mais dont Jésus va donner une portée tellement glorieuse qu'elle nous est donnée en exemple, l'affection de l'Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est une personne. C'est même la troisième personne de la Trinité divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils forment ensemble la triunité. La Trinité, c'est Dieu. Étant une personne, le Saint-Esprit a des affections. On est bien d'accord. Il y a des choses que le Saint-Esprit aime. Il y a des choses que le Saint-Esprit n'aime pas. Et lorsqu'il vient dans mon cœur, puisque je deviens son habitation, lorsqu'il vient dans mon cœur, il communique à mon esprit ses affections. Un chrétien qui aimerait des choses que l'Esprit de Dieu qui habite en lui n'aime pas serait un paradoxe. L'Esprit de Dieu vient en moi et là, il fait un travail merveilleux. Il me communique son affection. Et Paul dit, c'est important, l'affection de l'Esprit, c'est pas négligeable. C'est la vie et c'est la paix. Qui est intéressé par la vie? Et qui aspire à être rempli de paix permanente? Eh bien, ce sont deux bénédictions qui découlent de l'affection de l'Esprit. Et Dieu veut me conduire, mes bien-aimés, à aimer ce que l'Esprit de Dieu aime. Et par réaction, à rejeter ce que l'Esprit de Dieu aborde. Ce qui est incompatible, inacceptable pour l'Esprit de Dieu. Alors, il veut me communiquer ce phénomène spontané de rejet des choses qu'il n'aime pas. Et d'attirance très forte pour les choses qu'il aime. Moi, je veux aimer ce que l'Esprit de Dieu aime. Je veux rechercher ce que l'Esprit de Dieu apprécie au plus haut point et vers lesquels il veut pousser tout mon être. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui vit en moi ne me sert pas uniquement à émettre un parler en langue, même si ce parler en langue est le signe merveilleux d'une plénitude du Saint-Esprit, c'est merveilleux, mais l'Esprit de Dieu qui vit en moi veut me faire aimer ce qu'il aime. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'il aime se concentre en la personne de Jésus. L'Esprit de Dieu aime Jésus. Jésus lui-même dira, il me glorifiera. L'Esprit de Dieu en moi va nourrir une affection pour une personne. La personne de Jésus. C'est ce qui s'est passé dans cette réunion à Béthanie, et je prie pour qu'à Aubagne, ce matin, il se passe la même chose dans la dimension spirituelle. Jésus tenait une réunion, puisque Simon le lépreux à Béthanie l'invite. Il y avait aussi Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Marthe était là aussi, Marie de Béthanie était là aussi. Il y avait les disciples de Jésus, il y avait l'équipe, vous savez, l'équipe des femmes croyantes hein, qui suivaient Jésus partout, Jeanne, Suzanne, Marie de Magdala et d'autres femmes encore. Il y avait donc tout un auditoire. C'était comme un peu ce matin, une merveilleuse réunion avec le prédicateur parfait, le Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et ils étaient là, suspendus à l'enseignement du Seigneur. Ça marche aussi. Allô, allô? Ça marche. Suspendus à la parole du Seigneur. À un moment donné, les quatre évangiles rapportent ce fait. Les quatre évangiles en témoignent avec force. Une femme, Marie de Béthanie, qui est saisie par la parole que Christ enseigne. Et les porter et les transporter à une démarche irréfléchie, pas du tout prévue. Son être intérieur est envahi pour Christ d'un amour extraordinaire que moi j'appelle l'affection de l'esprit. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas, elle ne considère pas le regard des autres, elle ne considère pas que ça pourrait être mal interprété, mal vécu. Certains peut-être pourront vivre ça comme un inconfort, elle va peut-être déranger, mais elle se lève, elle va chez elle, dans son lieu personnel, elle prend un vase d'albâtre plein d'un nard pur de grand prix, une livre, une quantité importante d'une denrée très prisée, réservée à des classes très fortunées, inaccessibles au bas peuple. Elle vient. Et quand on fait le recoupement des quatre évangiles, d'abord, elle en verse sur les pieds de Jésus. Et avec ses cheveux, elle essuie. Et puis après, elle se lève. Et d'un geste brusque, elle brise le vase d'albâtre et elle répand tout le contenu sur la tête du Seigneur Jésus. C'est pas rationnel, c'est pas religieux, c'est pas préparé, c'est pas formaté, c'est pas stéréotypé, c'est l'affection de l'esprit. Son être entier est inondé pour Jésus d'une intensité d'amour, d'adoration, d'émerveillement. Elle n'a pas de mots. Alors elle a un geste. Et ce geste, on le trouve dans toute la Bible, c'est offrir au Seigneur. Offrir au Seigneur. Tous les bien-aimés qui ont loué, chanté là, il y a un instant, vous avez offert, j'espère, vous avez offert. Il y a ce geste qui a transporté votre âme pour lui donner, pour lui offrir, avec des cœurs inondés d'émerveillement. Alléluia, gloire à Dieu. On le trouve tout au long des Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, la notion de l'offrande, la notion de la du fait de donner au Seigneur, qui a été lui le premier à donner, puisque dès le jardin d'Éden, il donne en sacrifice un animal innocent pour couvrir la honte et la nudité d'Adam, de Ève. Et puis c'est Caïn et Abel qui ont ce geste, et puis Abraham, et puis les patriarches, et puis Moïse arrive dans le Lévitique. Il y a tout un ensemble de prescriptions où Dieu veut éduquer, initier son peuple à vivre cette dimension merveilleuse d'offrir à l'Éternel, en sachant très bien que quand j'offre à Dieu, je ne l'enrichis pas. On est bien d'accord? Oui ou non? L'or lui appartient, l'argent lui appartient. Il dit un mot, il y a un poisson livreur de menu monnaie qui arrive, pof, et je paye mon droit de passage. Lorsque j'apporte à mon Dieu, je ne l'enrichis pas, mais j'exprime quelque chose qui a une valeur tellement élevé et qu'il considère lui à son juste prix, offrir avec les dispositions de Marie de Béthanie. Elle peut pas rester en place. C'est trop bon de l'entendre, c'est trop bon de le connaître, c'est trop bon d'être dans sa présence. Alors il y a quelque chose qui impérieusement me pousse à lui exprimer combien je l'aime. C'est l'affection de l'esprit. L'affection de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Et je prie pour que dans mon cœur comme dans le tien, le Saint-Esprit sans cesse réalimente mon esprit dans l'affection de l'esprit. Amen. Je veux aimer la personne de mon Sauveur, de mon cher Sauveur, d'un amour sans cesse rafraîchi, renouvelé, intensifié. Alléluia, gloire à Dieu. Un amour sans cesse en renouvellement, pour se préserver de ce qui est rance, de ce qui vieillit mal, de ce qui est frelaté. C'est ainsi que Marie se lève et apporte. Vous savez que la Bible nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais c'est pas simplement le mot joie. C'est ce mot joie exprime le sentiment indescriptible d'amour, d'enthousiasme et du désir de se livrer, c'est l'affection de l'esprit. Lorsque je donne, je prends une petite parenthèse hein, rapide, lorsque je donne ma dîme, je ne paye pas une cotisation. C'est pas ça. Mais c'est une manière, parmi bien d'autres, d'exprimer l'affection de l'esprit. Alléluia! Offrir au Seigneur. Vous savez, lorsque Jésus, rappelez-vous, était dans le temple, il a choisi une place que peut-être nous n'aurions pas choisie. Il s'est mis vis-à-vis du tronc. Et il s'est mis à observer ceux qui donnaient. Mais en fait, non, je viens de faire une erreur. Scripturairement, il est dit, il s'est mis à regarder comment on donnait, pas combien. Comment? Autrement dit, avec quelle disposition de cœur? Parce qu'encore une fois, je ne vais pas économiquement enrichir le Seigneur. Il est le maître de tout. Mais par contre, je peux réjouir son cœur par le comment. Par le comment. Eh bien, vous savez, Marie de Béthanie a fait cette démarche avec des dispositions exemplaires, l'affection de l'esprit. Que le Saint-Esprit nous visite ce matin. Amen. Et si dans un cœur il y avait comme une sorte de platitude, d'accoutumance, une sorte de monotonie dans sa relation avec Jésus, que bien vite ta relation avec ton Sauveur connaisse un véritable renouvellement. Et que l'affection de l'esprit inonde ton cœur. Gloire à Dieu. Alors elle a eu ce geste irréfléchi, mais inspiré par l'affection de l'esprit. Et rapidement, pour pas être trop long ce matin, rapidement, elle fait ça en deux phases. Elle vient d'abord répandre du parfum sur ses pieds, et ça c'est merveilleux, parce que elle est en train de dire « Merci d'être venu. Merci de ce que tes pieds ont visité l'humanité. Jésus est venu. Amen. » C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et je crois que ce matin, Jésus vient encore. Et chaque fois qu'on se rassemble en son nom, Jésus vient. Ses pieds nous parlent d'un Sauveur qui s'approche de nous avec sa volonté bienveillante de nous bénir sans faire aucune exception. Merci pour tes pieds, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Eh bien, les pieds de Jésus sont les plus beaux parmi les plus beaux, parce que lui, c'est la bonne nouvelle personnifiée. C'est le Christ qui nous ouvre les cieux, qui vient parmi les hommes, qui donne sa vie pour l'expiation des péchés et qui ressuscite glorieusement. Alléluia. Seigneur, merci d'être venu. Et puis elle se lève, et là, elle se dirige là, au-dessus de la tête du Seigneur. Et là, d'un coup, d'un seul, elle casse son vase et elle laisse couler la totalité de ce nard pur, dont tout à l'heure je parlerai un peu plus en détail. Et là, vous savez, ce geste aussi parle beaucoup. Parce que là, tous les Juifs ont fait immédiatement le rapport direct. Jésus reçoit l'onction en tant que roi, en tant que prophète et en tant que sacrificateur. Mais en tant que roi, ajoutons, il est le roi des rois. En tant que prophète, ajoutons, il est plus qu'un prophète. Il est la parole de Dieu incarnée. En tant que sacrificateur, ajoutons, il est le souverain sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek. Ce geste, alors je ne sais pas si Marie était consciente de toute la portée de son geste, mais quand c'est l'affection de l'esprit qui nous transporte, on sort des limites de l'intellectuel, rationnel, et on entre dans le spirituel, que Dieu soit béni. Elle offre à Jésus du nard pur, de grand prix, et une quantité importante. Le nard, c'était une denrée très chère, peu de personnes pouvaient s'en procurer. Il fallait monter dans toute la chaîne himalayenne, le Népal, l'Inde, le Bhoutan, une partie de la Chine. Il fallait grimper, aller très loin, grimper, pour trouver une herbe qui ne poussait que dans cette chaîne himalayenne. Et on prélevait de cette herbe une substance un peu pâteuse, comme du sandou, vous voyez. Et après l'avoir recueilli, on faisait passer ce produit par un cycle compliqué, long, de traitement pour obtenir ce fameux nard, mais qui contenait une puissance de parfum inégalable. C'est pourquoi c'était très cher. Il fallait aller très loin, il fallait ensuite traiter longtemps. Et il se produisait le phénomène suivant. Probablement, il est plausible de penser que c'était le cas de Marie. Avec beaucoup de labeur, beaucoup de fatigue, et sur une longue durée, Marie avait réussi à acquérir par petite quantité, ce précieux produit. Très probablement, la famille de Lazare, Marie et Marthe était une famille modeste. C'est Marthe qui sert, qui fait les tâches domestiques. Ils n'ont pas de quoi payer une servante. Probablement, Marie a dû certainement travailler dur pour, entre guillemets, économiser ou épargner et accumuler ce précieux produit dans la perspective de son avenir. C'est ainsi que l'on procédait lorsque dans la jeunesse, on voulait préparer l'avenir, eh bien, on essayait d'accumuler une quantité intéressante d'éléments précieux. J'ai envie de dire que ce nard que Marie a mis si longtemps à accumuler, c'était ses projets personnels. C'était son avenir. C'était ses rêves. C'était ses plans. Et quoi de plus légitime ? Elle se disait en rêvant, un jour je vais rencontrer le prince charmant. Un jour, je vais connaître l'amour d'un couple heureux, épanoui. Un jour, j'aurai probablement des enfants. Elle avait une projection intelligente, légitime, et elle préparait ces choses en offrant ce nard pur d'un coup, d'un seul, à Christ. En fait, elle lui offre ses projets, elle lui offre sa vie, elle lui offre ses rêves. Et elle est en train de dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es l'accomplissement parfait de tous mes rêves, de toutes mes aspirations, de tous mes projets. Ma vie, je te l'offre, Seigneur. Et voyez-vous, elle a fait ça d'une manière peut-être pas très esthétique, pas très convenable. Elle vient au-dessus de la tête de Jésus, elle casse le vase d'albâtre, elle laisse tomber tout le contenu, d'un coup, d'un seul. Moi, je ne sais pas si j'aurais fait comme ça. Mes chromosomes arméniens m'auraient peut-être conduit à une autre démarche. Moi, j'aurais penché le vase au-dessus de la tête de Jésus. Peut-être, je dis peut-être. Et j'aurais fait couler, et en voyant le liquide précieux couler, vous voyez, mes yeux auraient transformé ça en pièces d'argent. Vous voyez. Je dis, oh, 20 deniers, 25, oh, 50 deniers, 100 deniers. Et peut-être qu'à un moment donné, j'aurais dit, hop là, stop. Et dans ce cas, ça aurait été une offrande calculée. Une offrande calculée. Mais quand c'est l'affection de l'esprit qui nous porte et nous transporte, notre offrande n'est plus une offrande calculée. Le vase est brisé d'un coup, et d'un coup, d'un seul, ma vie entière lui est donnée. Et vous savez, comme on le disait dans les cours de récréation à l'école, donner, c'est donner. D'un coup, d'un seul, j'offre ma vie au Seigneur. Moi, je l'ai fait à 16 ans et demi. Il y en a trois là, ils brillent de joie là. Hein. Dimanche dernier, ils l'ont donné, leur vie, alléluia. Hein. D'un coup, d'un seul, je suis en train de dire, Seigneur Jésus, désormais tu es le propriétaire, le gestionnaire, le décideur de toute ma vie, dans tous ses aspects, tu en es le maître. Et ce sont tes desseins parfaits pour ma vie qui m'intéressent et rien d'autre. Amen. Dans ce vase d'albâtre, il faut le casser. Ce vase d'albâtre, c'est le récipient qui retient le parfum. Ce vase d'albâtre, moi, je le comparerais volontiers à ma nature humaine, à mes calculs, à mes résistances, mes réticences, à mes limites raisonnables. Mais quelqu'un a dit, vous savez, que le cœur a des raisons que la raison ignore. Quand mon cœur est transporté par l'affection de l'esprit, alors toutes les limites que la raison froide et réfléchie impose disparaissent. C'est ainsi que il est peut-être nécessaire, mon frère, ma sœur, que ton vase soit brisé. Que tes résistances soient rompues. C'est avec beaucoup de respect que je vous dis ceci et avec une prière que vous soyez tous bénis par le Seigneur. Vous et moi, nous avons cette nature commune qui comporte des résistances, des oui, mais, des oui, si, des résistances, des argumentations, des réactions. Eh bien, le prophète Jérémie disait, à un moment donné, avoir capitulé et avoir cessé de résister. J'ai le sentiment que peut-être Quelqu'un résiste ce matin. Dieu t'aime, Dieu te parle, Dieu t'offre, Dieu te propose, Dieu t'invite, Dieu veut t'attirer. Mais il y a dans ton cœur de la résistance. Casse ton vase d'albâtre ce matin. Laisse le Seigneur rompre tes raideurs, tes craintes, tes replis sur toi-même. D'un coup, d'un seul, l'albâtre est cassé et le nard est répandu sur la tête du Seigneur Jésus avec la portée spirituelle que j'ai énumérée tout à l'heure. Que le Seigneur soit béni. En sachant ceci, c'est que sur le chemin de l'affection de l'Esprit qui te portera à offrir à Christ, tu rencontreras ce que Marie a rencontré, l'incompréhension et les réactions humaines de ton entourage. Le geste de Marie a suscité étrangement des réactions, mais très fortes, en opposition à cet élan si noble et si admirable. Judas, par exemple, s'est exprimé en disant « Quel gaspillage !» Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il serait possible que ce que je vais offrir à mon sauveur bien-aimé soit considéré comme un gaspillage? Ça voudrait dire que ce que je lui donne, c'est plus que ce dont il est digne? Moi, je crois que c'est plutôt souvent le contraire, pour ne pas dire toujours. Ce que je lui offre est en dessous de sa dignité, parce qu'il est digne de recevoir encore plus. Mais Judas va traiter cela de gaspillage. À quoi bon perdre ce parfum? Tu l'as perdu, Marie. Ton geste, je n'arrive pas à l'accepter. Quelle violence! On peut peut-être assimiler cette réaction à la sagesse du monde. Autour de toi, on ne comprendra pas forcément certaines de tes décisions inspirées par l'affection de l'esprit. On te dira le lundi matin, t'étais où hier? Ben hier, j'étais à l'église. Encore? Oui, j'y vais tous les dimanches. Hein? Eh, tiens-toi bien, j'y vais aussi le mardi soir. Oh! Encore? Moi, je me souviens, quand l'affection de l'esprit m'a transporté, j'aurais pu me passer de l'ascenseur de mon immeuble pour aller du premier étage où on habitait, pour aller au 8e où il y avait mon entraîneur de football. Je suis monté et je lui ai dit, « Monsieur Garcia, bonne nouvelle! À partir d'aujourd'hui, je ne viens plus au foot. » Parce que le foot, c'était le dimanche matin. J'ai joué au foot après, pendant des années, mais pas le dimanche. Parce que maintenant, M. Garcia, quel bonheur, le dimanche, chaque dimanche, tous les dimanches et toute ma vie, je vais aller dans la maison du Seigneur pour le louer, le chanter, me nourrir de sa parole. C'est l'affection de l'esprit. Mais les gens du monde vont dire que c'est du gaspillage. Tu gaspilles ta vie de jeune fille, tu vas finir vieille fille. Mais il faut rencontrer des gens de ton âge. C'est du gaspillage. Tu es un bel étudiant, brillant, et tu snobes toutes nos soirées de divertissement. C'est du gaspillage. Mais tu perds ta jeunesse. Mais écoutez, moi, ma jeunesse, si je devais la recommencer, je la recommencerais comme je l'ai vécue, avec le Seigneur Jésus, dans la joie de l'Église et dans le zèle, l'enthousiasme de l'Évangile. Que le Seigneur soit béni. C'est du gaspillage, ça c'est le langage du monde. Mais, chose plus étonnante, l'incompréhension peut provenir aussi en interne. Parce que les disciples ont exprimé aussi leur ressenti. Et la Bible me dit, ils s'indignèrent, c'est fort dit, ils s'indignèrent, ils se mirent en colère, Et ils ont fait du mal à Marie, puisque Jésus intervient en disant « Pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Est-ce que des disciples peuvent faire mal à un autre disciple ? Ailleurs, oui, à Aubagne, jamais. Oui, mon frère, ma sœur, dans ces nobles transports que l'affection de l'esprit te donnera de vivre, tu pourras rencontrer auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, auprès de tes bien-aimés, des attitudes, des regards, des propos qui vont t'affliger. Que ces afflictions ne te bloquent pas, parce que pour moi, je pense que pour vous c'est pareil, le plus important c'est l'approbation du maître. Oui ou non ? C'est que Jésus nous approuve, et c'est ce qui s'est passé. Il a laissé parler les autres, et ensuite il a pris la parole, et ce que je vais noter, mes bien-aimés, c'est que Jésus approuve, il immortalise, et il révèle la portée prophétique et spirituelle du geste de la femme. Oh là 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 là. Moi, je prie pour que le témoignage d'approbation du Seigneur soit sur ma vie. Et cela tienne. Rien n'égale l'approbation du Seigneur qui te dit « Je suis fier de toi. Tu me réjouis. J'approuve. » Je suis avec toi, je suis d'accord, tu es en accord avec ce que j'ai pour toi. Entre nous, c'est une communion, une harmonie parfaite, l'approbation du Seigneur. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à rechercher l'approbation de Jésus, l'approbation du Seigneur. Et par le Saint-Esprit qui t'habite, tu vas vivre l'expérience suivante. Intérieurement, par exemple, de recevoir des signaux désapprobateurs, comme si intérieurement le Saint-Esprit te dit non. Eh ben, laisse cette influence te guider. Amen. Et par ailleurs, tu vas vivre l'inverse. Tu vas sentir en toi une joie, une approbation, comme si le Seigneur intérieurement dit oui, c'est la bonne direction. Je suis avec toi. C'est important de développer en nous ce sentiment, cette sensibilité à l'approbation du Seigneur. Et je disais, donc Jésus va approuver. Écoutez, en plénière, il dit, cette femme, elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est, quand c'est le Seigneur qui dit, c'est bon, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Moi, quand j'étais en primaire, je rentrais à la maison et quand c'était le cas, je montrais mon cahier du jour à mes parents. Quand c'était le cas, dans la marge, il y avait très bien, très bien, très bien, très bien, bien. Alors, j'étais fier. Quelquefois, j'étais plus long à montrer le cahier du jour parce qu'il y avait médiocre, passable, peu mieux faire. Bon, ça, je le gardais un peu comme ça. Hein. Mais quand c'est le Seigneur Jésus qui, sur ta vie, dit « c'est bon, c'est bien », ce que cette femme a fait, c'est bien. Elle a fait une bonne action à mon égard. Il va approuver, il va aussi immortaliser. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, partout, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Et je comprends ces paroles de Jésus, parce que après avoir immortalisé ce geste, il va révéler sa portée spirituelle et prophétique. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Si je mets tous ces éléments bout à bout, oh, je comprends que par ce geste inspiré par l'affection de l'esprit, Marie est en train d'annoncer que Christ, dans quelques jours, allait mourir. Il est question de sépulture, d'embaumer un corps. Elle annonce Christ crucifié, mais Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, parce qu'elle est en train de dire, c'est moi qui paraphrase un peu, mais c'est tout à fait ça, elle est en train de dire à toutes les autres femmes, Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, hé les filles, c'est maintenant qu'il faut lui offrir le parfum, parce que si vous y allez le dimanche matin de Pâques, avec vos aromates, vous allez arriver en retard, parce que il sera ressuscité. Elle annonce que Jésus va ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les femmes sont arrivées, qui va nous rouler la pierre? Elle était roulée déjà. Elles arrivent avec leurs aromates la veille, elles avaient tout préparé. Elles arrivent et elles sont quand même confuses parce que Jésus, qu'elles étaient venues embaumer, n'était plus là. À la place, il y avait un ange en leur disant, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Et c'est ce que Marie est en train d'exprimer ici, mes frères et mes sœurs. Et c'est vrai, partout, dans le monde entier, quand on prêche l'évangile de Jésus-Christ crucifié et de Jésus-Christ ressuscité, eh ben, on rappelle la mémoire de ce geste sublime. Mon frère, ma sœur, que ta vie spirituelle soit portée par l'affection de l'Esprit. Que tu ressentes intérieurement cette douce pression du Saint-Esprit à offrir, à te donner, à privilégier la volonté du Seigneur. Et je termine, ma conclusion est la suivante. Parce que ça a été repris dans un don spirituel tout à l'heure. C'est maintenant et pas plus tard. Quelqu'un peut-être est travaillé par l'appel de Dieu. Mais tu te dis, je vais y répondre, mais plus tard. Eh bien, je te dis de sa part, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Ce matin, Dieu attend que tu répondes à son appel. Après, il fera concourir les circonstances, il gérera ton avenir sans problème. Mais ta réponse, ta résolution n'est pas à remettre à demain. Elle est pour maintenant. Amen. C'est maintenant. Pour quelqu'un, peut-être, il s'agit d'un appel que le Seigneur lui lance pour sa conversion. Dieu t'appelle à te convertir à Jésus. Et toi, tu dis, oui, je vais me convertir. Je sais que c'est la vérité. Mais plus tard, eh bien, Dieu te dit, non, c'est maintenant. C'est là, ce matin, le 12 mai 2024, dans ce lieu, c'est maintenant qu'il faut prendre ton vase d'albâtre, qu'il faut casser tes résistances et lui offrir ta vie. Alors que le Seigneur nous interpelle ce matin, j'aimerais vous inviter à un moment de prière.